Chapitre 21. Naissance d'Isaac. L'accomplissement de la promesse. Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Verset 1. Voici enfin l'accomplissement de la promesse, le fruit bienheureux de l'attente patiente. On ne s'attend jamais à Dieu en vain. Celui qui, par la foi, saisit la promesse de Dieu, est déjà en possession d'une ferme réalité qui ne peut lui faire défaut. Il en fut ainsi d'Abraham et de tous les fidèles, de siècle en siècle. Et il en sera de même de tous ceux qui se confient au Dieu vivant. Quel bonheur, quelle tranquillité pour nous, de pouvoir nous appuyer sur une ancre de l'âme sûre et ferme et qui entre jusqu'au-dedans du voile. Hébreux 6, verset 19. Lorsque Abraham eut devant lui l'enfant que Dieu lui avait promis, il put voir la futilité de ses propres efforts pour amener l'accomplissement de la promesse. Ismaël, objet d'attachement pour les affections naturelles d'Abraham, ne fit que rendre la tâche de celui-ci plus difficile par la suite. Mais il ne servit en rien à l'accomplissement du dessein de Dieu. L'homme naturel ne peut faire quoi que ce soit pour Dieu. Il faut que Dieu visite, que Dieu fasse. Et il faut que la foi attende et que l'homme se tienne tranquille. Bien plus, il faut qu'il soit mis entièrement de côté, comme une chose morte et inutile. Alors la gloire divine peut resplendir et la foi trouver sa riche et excellente récompense. Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Verset 2. Il existe pour Dieu un temps fixé, un temps convenable, et il faut que le fidèle sache l'attendre patiemment. Le temps peut paraître long, et l'espoir différé peut faire languir le cœur, mais tout a pour but la manifestation finale de la gloire de Dieu. Le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, verset 4. C'est une chose merveilleuse que la foi. Elle introduit dans notre présent toute la puissance de l'avenir de Dieu. Elle se nourrit des promesses de Dieu comme d'une réalité présente. Par elle, l'âme reste attachée à Dieu, alors que tout ce qui est extérieur semble être contraire. Et, au temps fixé, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Et Abraham était âgé de 100 ans lorsque Isaac, son fils, lui naquit. Verset 5. Quand l'homme était absolument sans ressources, le temps de Dieu était venu. Et Sarah dit « Dieu m'a donné lieu de rire. » Verset 6. Tout est joie, joie triomphante, quand Dieu peut se montrer. Isaac et Ismaël. Mais si la naissance d'Isaac remplit Sarah de joie, elle introduit aussi un élément tout nouveau dans la maison d'Abraham. Le fils de la femme libre accélérera le développement du vrai caractère du fils de la servante. Isaac fut en principe, pour la maison d'Abraham, ce qu'est l'implantation de la nouvelle nature dans l'âme d'un pécheur. Ismaël n'était pas changé, mais Isaac était né. Le fils de l'esclave ne pouvait jamais être autre chose que ce qu'il était. Qu'il devienne une grande nation, qu'il devienne le père de 12 chefs, il n'en reste pas moins toujours le fils de l'esclave. D'un autre côté, quelque faible et méprisé qu'il soit, Isaac est le fils de la femme libre, celui qui tient tout du Seigneur, sa position, son rang, ses privilèges et ses espérances. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. La nouvelle et la vieille nature. La régénération n'est pas un changement de la vieille nature, mais l'introduction d'une nouvelle nature. C'est l'implantation de la nature ou de la vie du second Adam par l'opération du Saint-Esprit, fondée sur la rédemption accomplie par Christ. Du moment qu'un pécheur croit de cœur au Seigneur Jésus et le confesse de ses lèvres, il entre en possession d'une vie nouvelle. Il est né de Dieu. Il est enfant de Dieu. Il est fils de la femme libre. Voyez Romains 10, verset 9, 1 Jean 3, verset 1 et 2, Galates 3, verset 26, Galates 4, verset 31. L'introduction de cette nouvelle nature ne change aucunement le caractère de la vieille nature. Celle-ci demeure ce qu'elle était, sans amélioration à aucun égard. Bien plus, sa méchanceté se manifeste pleinement en opposition avec l'élément nouveau. La chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Galates 5, verset 17. L'existence des deux natures dans le croyant est généralement peu comprise, et aussi longtemps qu'elle est ignorée, l'esprit ne peut qu'errer dans le vague quant à ce qui concerne la vraie position et les privilèges de l'enfant de Dieu. Certains croient que la régénération est un changement graduellement opéré dans la vieille nature, jusqu'à ce que l'homme tout entier ait subi une complète transformation. Il est facile de démontrer, par divers passages du Nouveau Testament, que cette opinion est erronée. Ainsi, nous lisons, « La pensée de la chair est inimitié contre Dieu. » Romains 8, verset 7. Ce qui est inimitié contre Dieu serait-il susceptible d'amélioration? C'est pourquoi l'apôtre continue en disant, « Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Si elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, comment pourrait-elle être améliorée ?» Et puis ceci, ayant dépouillé le vieil homme. Colossiens 3, verset 9. L'apôtre ne dit pas « Vous avez amélioré » ou « Vous cherchez à améliorer le vieil homme », mais « Vous l'avez dépouillé ». C'est là une chose toute différente, aussi différente que le sont l'acte de raccommoder un habit et celui de le mettre de côté. Dans la pensée de l'apôtre, il s'agit en effet de dépouiller un vieil habit et d'en revêtir un nouveau. On pourrait multiplier les citations. La vieille nature est morte dans le péché et absolument incorrigible. La seule chose que nous puissions faire d'elle, c'est de la tenir pour morte dans la puissance de la vie nouvelle. La naissance d'Isaac n'améliora pas Ismaël. Elle ne fit que mettre en évidence son opposition réelle contre l'enfant de la promesse. Il avait pu avoir une conduite très paisible et réglée jusqu'à l'arrivée d'Isaac, mais alors il montra ce qu'il était en se moquant de l'enfant de la promesse et en le persécutant. Où était le remède à ce mal? Pas dans l'amélioration d'Ismaël, mais « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Versets 9 et 10. Tel est l'unique remède. Tout effort tendant à améliorer l'homme naturel est vain pour ceux qui regardent Dieu. Les hommes peuvent trouver un avantage à cultiver et améliorer ce qui leur est utile à eux-mêmes. Mais Dieu a donné à ses enfants quelque chose d'infiniment meilleur à faire, à savoir de cultiver ce qui est sa propre création. Et les fruits de cette création, qui n'élève jamais la chair, sont entièrement à la louange et à la gloire de Dieu. Liberté et servitude. L'erreur dont les églises de Galatie avaient été victimes était de vouloir faire dépendre le salut de quelque chose que l'homme pouvait être ou faire. On disait « Si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Acte 15, verset 1. On renversait ainsi le glorieux édifice de la rédemption qui repose exclusivement sur ce que Christ est et sur ce qu'il a fait. Faire dépendre le salut, même dans une petite mesure, de quoi que ce soit dans l'homme ou qui soit fait par l'homme, c'est anéantir le salut. Le salut que Dieu donne ne laisse rien à l'homme de quoi il puisse se glorifier. S'il dépendait d'un changement, même divin, opéré dans la nature humaine, la chair, le moi, pourrait se glorifier, et Dieu n'aurait pas toute la gloire. Mais je suis introduit dans une nouvelle création où tout est de Dieu, le dessein et son accomplissement. C'est Dieu qui agit, et moi, j'adore. Il est le donateur, et moi, celui qui reçoit. Voilà ce qui distingue le christianisme de tout système religieux humain. La religion de l'homme accorde toujours, plus ou moins, une place à la créature. Elle garde dans la maison la servante et son fils, et laisse à l'homme de quoi se glorifier. Le christianisme, au contraire, exclut la vieille nature et ne lui accorde aucune part dans l'œuvre du salut. Il chasse la servante et son fils, et rend toute gloire à Dieu. Voyons maintenant ce que sont, en réalité, cette servante et son fils, et ce qu'ils préfigurent. Le chapitre 4 de l'Épître aux Galates nous en instruit amplement. La servante représente l'alliance de la loi, et son fils, tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi. La servante n'enfante que pour la servitude, elle ne peut mettre au monde un homme libre. Elle maintient son autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Romains 7, verset 1. La mort seule peut soustraire à sa domination. Or, justement, c'est cela qui est arrivé par la mort de Christ. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Romains 7, verset 4. Voilà la liberté. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Galates 4, verset 31. Cependant, le cœur de l'homme est enclin au légalisme, et nous en débarrasser peut être difficile. Quand Sarah dit à son mari « Chasse cette servante et son fils », cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Genèse 21, versets 10 et 11. Mais Dieu veut que nous tenions fermes dans la liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant et que nous ne soyons pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Galates 5, verset 1.